إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Mes frères et sœurs, le thème de cette rencontre est intitulé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le maître des hommes. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Sayyidu al-Nas. Sayyidu al-Nas. Ce titre, je l'ai choisi à partir d'un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporté dans Sahih Muslim. Et bien sûr, il est rapporté aussi dans les autres ouvrages de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tels que Musnad l'imam Ahmed et d'autres recueils de hadith. Dans la version de Sahih Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Ana sayyidu waladi adama yawm al-qiyama »« Ana sayyidu waladi adama yawm al-qiyama » Dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Je suis le maître des descendants de Adam alayhi salam le jour de la résurrection » Ana sayyidu waladi adama yawm al-qiyama » Dans une autre version qui n'est pas dans Sahih Muslim, في رواية نبه العلماء أنها لأن بعضهم نسبها إلى صحيح مسلم وليست في مسلم هي في مسند أحمد وغيره. Il est dit comme quoi le prophète sallam a dit أنا سيد ولد آدم ولا فخر ولا فخر أي لا أفتخر لا أقول ذلك على وجه التفاخر والكبر. Dans l'autre version rapportée par Ahmed, le prophète sallam dit je suis le maître des hommes, mais je le dis non pas pour me vanter. Et l'imam Nawawi rahimahullah fait le commentaire pour nous montrer quand est-ce qu'il est permis de dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est Sayyid. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même dit, quand on lui a dit que tu es Sayyid, maître, il dit alayhi salatu wa sallam, As-Sayyid huwa Allah. Le maître c'est Allah. Alors vous voyez qu'il y a deux textes différents. Un dans lequel on posa la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant que tu es le maître, Sayyid, il dit le maître c'est Allah. Et dans l'autre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit je suis le maître des hommes, yawm al-qiyama. Al-ulama sharahu hadha ou hadhihi al-ahadith faqalu, ma yali. Le fait de dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le maître des hommes, eh bien c'est correct. Et c'est une chose qui est acceptable, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il l'a dit, il ne l'a pas dit pour se vanter, mais plutôt à titre d'information, car c'est Allah Azza wa Jal qui lui a ordonné de le faire. Donc ça fait partie de la révélation qu'il doit transmettre. Allah lui dit, dis aux gens que tu es le maître des hommes. Donc il l'a transmis à titre d'information qu'il a donné. C'est une révélation qu'il doit transmettre. Mais si quelqu'un le dit pour se vanter, pour montrer son orgueil, alors là, on ne peut pas l'attribuer à quelqu'un. Deuxième réponse qu'ils ont donnée l'ulama, que c'est quand on dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le maître des hommes et on dit qu'Allah azza wa jalla c'est lui le maître, eh bien le maître absolu, as-sayyid al-mutlaq huwa Allah, le maître absolu c'est Allah azza wa jalla. Mais le maître parmi les hommes c'est qui? C'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Idhan fa huwa sayyid. Eh bien si vous exposez devant vous une série de textes rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous allez voir combien y a-t-il de textes dans lesquels il dit qu'un tel est sayyid, un maître. Al-Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith sahih, il dit aux Médinois, levez-vous pour accueillir, bien pour aller vers
votre maître Sayyid Sa'd ibn Mu'ad, qumu ila Sayyidikum. C'était Sa'd ibn Mu'ad, un des chefs de Médine, un grand sahabi. Il a été blessé dans une bataille et peu de temps après il sera, donc il va décéder radiyallahu anhu. Mais pendant la période où il était blessé, il est venu sur un âne et arrivé, le prophète dit aux siens, aux Médinois, levez-vous vers lui parce qu'il était blessé, il a besoin de quelqu'un pour l'aider aussi. Eh bien il dit Sayyidikum, votre maître. Alors comment Sa'd ibn Mu'ad peut être le maître des Médinois et le prophète sallam ne peut pas l'être? Comme le prophète sallam, il est rapporté dans les hadiths authentiques, en parlant de certaines personnes, il dit que ce sont des Sayyids. En parlant même de certaines actions, de certaines invocations, Sayyidul Istighfar, la formule maîtresse des invocations, Sayyidul Istighfar, Sayyidul A'mal, Sayyidul Ayyam, le maître des jours, c'est quel jour? Al-Jumu'a, le vendredi. Donc nous avons ici, je veux dire par là, que le terme Sayyid attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, il y a des dizaines de textes dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam attribue soit à des jours, ou bien à des personnes, ou bien à autre chose, ce terme de maître. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est le maître des hommes, même si le hadith dans Sahih Muslim parle de Yawm al-Qiyamah, Sayyidu waladi Adama, Yawm al-Qiyamah. Mais il est certainement dans ce bas monde pour les raisons que je viens d'expliquer et pour ce que je vais dire, Inch'Allah, le long de cette conférence. Ça, c'est une première partie de cette conférence, de vous montrer qu'il est tout à fait légal islamiquement de dire du prophète sallallahu alayhi wa sallam que c'est un Sayyid alayhi salatu wassalam. Lui, il le dit, je suis le maître de la descendance de Adam, c'est-à-dire de toute l'humanité, Yawm al-Qiyamah. Mais avant de vous donner une image détaillée, pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le maître des hommes de toute l'humanité, depuis Adam jusqu'à la fin des temps, et que le fait que quelqu'un ou certains l'insultent ou se moquent de lui ou le critiquent ou dessinent des caricatures ou quoi que ce soit, ça ne peut jamais entacher ce grand homme qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, car c'est le maître de l'humanité. فَهُوَ سَيِّدْ لَا يَضُرُّهُ مَنْ سَبَّهُ وَلَا مَنْ شَتَمَهُ وَلَا مَنْ رَسَمَهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِ لَا يَضُرُّهُ ذَلْكَ لَنَّهُ سَيِّدُ الْأَوَّلِينَ وَالْأَخِرِينَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Il est le maître de toute l'humanité. Je dois introduire à ce sujet par donner un aperçu sur ce qu'étaient les Arabes et l'humanité avant l'avènement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour voir est-ce que le prophète a apporté un changement, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a laissé derrière lui un impact sur l'humanité, est-ce que après et avant l'avènement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce sont deux époques qui se ressemblent, ou bien y a-t-il des différences entre les deux époques avant l'avènement et après l'avènement du prophète sallallahu alayhi wa sallam? L'humanité avant l'avènement du prophète sallallahu alayhi wa sallam vivait dans les ténèbres volumat, et c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui les a fait sortir des ténèbres par la grâce d'Allah azza wa jal. Chez certains peuples, comme en Inde, chez les hindous, on adorait Allah azza wa jal par les impuretés et les saletés. En délaissant la purification, c'était pour certains une manière de se rapprocher d'Allah azza wa jal. كَانَ التَّعَبُّدْ لِلَّهِ فِي زَعْمِهِمْ بِنَجَاسَاتِ. Et même la société était divisée en quatre classes sociales. Il y a la première classe, les hommes de la religion, qui étaient classés au sommet de la pyramide, que personne ne peut critiquer, qu'ils avaient le droit de tout faire, de te prendre. Ensuite, les soldats, les armées. Ensuite, les commerçants et les paysans, et ou bien ceux qui travaillent le commerce, les commerçants travaillent la terre. Et à la fin, il y a la dernière classe, les ouvriers, qui n'avaient aucun droit et qui ne pouvaient pas s'asseoir à côté de la première classe, ni de les fréquenter, ni de les critiquer. C'était la société. Les Byzantins, c'était une société perdue dans les ténèbres des polémiques philosophiques. C'était la distraction, l'amusement, les femmes, le vin, les jeux du hasard, à même passer et à construire des monuments pour
regarder et s'amuser à regarder la souffrance des autres, à mettre sur une place, comme vous le savez tous, des lions, des combattants, et le plus fort l'emporte. Et on se met à rigoler autour de la souffrance des gens. Les Perses, leur roi, Kisra Korwes, qui est un titre, se considérait comme étant un descendant des dieux. Kana mulukul furs ya'udduna anfusahum awlad al-aliha. Les Arabes, eh bien, après des siècles de la disparition des civilisations arabes, telles que la civilisation de Saba au Yémen, Hadarat Saba, l'arabie fil Yémen, il y avait aussi, à l'époque de Ad, à l'époque de Thamoud, Ad au sud de l'Arabie, Thamoud au nord de l'Arabie, il y avait des grandes sociétés évoluées, comme le décrit le Coran al-Karim. Allah Ta'ala yassifu Ad wa Thamoud, annahuma kanata ummatayn qawiyatayn. Mais ils ont disparu. À cause de quoi? À cause de leur déviation qu'ils ont fait dans leur croyance. Eh bien, avant l'avènement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était une époque chez les Arabes où la loi de la jungle régnait. La guerre, les attaques, le vin, les jeux du hasard, l'adoration des idoles, comme décrit dans Sahih al-Bukhari, je vous rapporte le hadith, d'après Abi Raja al-Utaridi. Il dit, c'est juste un hadith que j'ai rapporté pour vous donner une image de ce que c'était le jahiliya avant l'islam, avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, kunna, ce sahabi décrit comment c'était le jahiliya. Kunna na'budu al-hajar. Nous adorions les pierres que l'homme fabrique. Fa'idha wajadna hajaran huwa akhyaru minhu alqaynahu wa akhadna al-akhar. Regardez le niveau intellectuel des peuples avant l'islam. Il dit, nous adorions des pierres, et quand on trouve une pierre meilleure que la première, c'est-à-dire un dieu meilleur que le premier, on rejette la première pierre qu'ils adorent pour prendre la deuxième pierre plus belle comme un nouveau dieu. فَإِذَا لَمْ نَجِدْ حَجَرًا. Mais quand on ne trouve pas de pierre, c'est-à-dire on ne trouve pas de dieu, جَمَعْنَا جُثْوَةً مِنْ تُرَابٍ. Il ramasse des poignées de terre pour faire un dieu fabriqué par leurs propres mains. جُثْوَةً مِنْ تُرَابٍ. Il dit, ثم جئنا بالشات فحلبناها عليه ثم طفنا به. Ils amènent une brebis pour traire du lait et le mettre là sur ce dieu, le déposer sur son dieu, et de venir par après faire tawaf autour d'une poignée ou de quelques poignées de sable ou bien de terre pour l'adorer. Ça, c'était le niveau des Arabes. Je parle au niveau de la croyance. Il y avait des qualités, le courage, il y avait l'honnêteté, il y avait la véracité, il y avait aussi le respect chez beaucoup d'Arabes. Mais au niveau de la croyance, c'était le plus bas des niveaux, au point où ils ont apporté autour de la Kaaba 360 idoles. C'est le niveau de la société arabe. En plus des guerres, en plus de leur manque de respect pour les femmes, la femme qui était considérée, comme vous allez voir demain, inshallah ta'ala, ils appelaient ça pour la femme, ils l'appelaient un héritage abandonné. Un héritage abandonné. Ça veut dire que la femme était comparée à un verre, ou bien à une chaise, ou bien une armoire, que quand le mari décède, eh bien, elle n'a aucune parole, elle n'a aucun mot à dire, on lui doit aucun respect. C'est un héritage que les enfants doivent hériter, surtout des enfants qui ne sont pas ses propres enfants, c'est-à-dire qui viennent d'une autre femme. Le plus grand des enfants d'une autre femme a le droit d'épouser la femme de son père. Ça, c'est le niveau de la société arabe avant l'islam. On adore des dattes, des pierres, des arbres, des maisons, du n'importe quoi, des étoiles, des djinns. Même certains adoraient les malaïka, les anges. Eh bien, dans ces ténèbres, un peu partout sur la terre, c'était la même chose. Allah Ta'ala a envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour changer le cours de cette humanité perdue. Comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Illa rubbar min ahlil kitab » Sauf quelques gens qui étaient à l'époque sur la voie de l'unicité, c'était des gens qui étaient sur la voie de Isa alayhi salam, ou bien sur la voie de Moussa alayhi salam, tels que Waraqa ibn Nawfal,
et Zayd ibn Amr ibn Nufayl, certains Arabes et d'autres qui étaient encore sur la voie de l'unicité à l'arrivée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou bien juste avant l'arrivée et l'avènement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors comparer ces sociétés avant l'avènement et après l'avènement, vous allez voir clairement qu'il y a certainement une grande différence. Après l'avènement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'humanité a connu la lumière, An-Nur, la lumière de la révélation du Coran al-Karim. Comme, chouf, subhanallah, l'humanité, normalement, elle doit venir avec la tête basse pour le respect de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est grâce à lui qu'il y a encore, dans cette humanité perdue, qu'il y a encore le seul livre d'Allah Azza wa Jal qui est non falsifié, c'est le Coran Karim. C'est grâce à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam que le chemin du paradis aujourd'hui est encore ouvert, que les portes du paradis sont encore ouvertes. Sans lui, eh bien l'humanité serait entièrement dans la perdition, dans l'égarement, elle mérite l'enfer. Si les portes du paradis sont ouvertes aujourd'hui, la voie elle est encore clair comme elle l'était des premiers jours de la révélation, c'est grâce à cet homme qu'on appelle Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a montré à l'humanité qui devons nous adorer, c'est lui qui a montré à toute l'humanité comment devons nous adorer Allah, c'est lui qui nous a rapporté l'éthique, la moralité, c'est lui qui nous a rappelé tous ces prophètes passés, depuis Adam, Idris, Nuh, Moussa, Isa, Ibrahim, etc. J'en passe, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qui nous a rappelé l'au-delà, c'est lui sallallahu alayhi wa sallam. Qui nous a mis en garde contre l'enfer et shaitan et le péché, c'est lui sallallahu alayhi wa sallam. Qui est venu pour nous appeler au paradis, nous montrer la beauté du paradis, les bienfaits du paradis, ce qu'il y a comme bonheur dans le paradis, c'est lui sallallahu alayhi wa sallam. Qui nous a appelé à respecter nos parents, nos amis, les gens qui ont plus de sens que nous, à respecter le voisin, à garder le bon voisinage, à tenir les liens de parenté, qui nous a interdit la médisance, le mensonge, le péché, les boissons alcooliques, les jeux du hasard, le vol, etc. C'est lui sallallahu alayhi wa sallam. Il nous a ordonné de faire le bien et d'éviter le mal. C'est lui, sallallahu alayhi wa sallam. Alors, après tout cela, je n'ai dit qu'une partie de ce que je dois dire du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Comment peut-on après discuter? Est-ce que le prophète, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, mérite-t-il d'être le maître des hommes, alayhi salatu wa sallam? Il le mérite. Si le prophète, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, n'est pas le maître des hommes, eh bien, je ne vois pas qui pourra l'être à la place du prophète, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. En quoi je donnerai des titres et des exemples? Il est le maître dans tout. Tu cherches qui est le numéro 1 dans la science, tu trouveras qui? النبي محمد صلى الله عليه وسلم في العلم هو الأول. C'est le premier في العلم رسول الله صلى الله عليه وسلم هو السيد في العلم. Dans la sincérité في الوفاء, c'est qui le numéro 1? محمد صلى الله عليه وسلم. Dans son comportement, fi khalqi, fi khuluqi, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fi khalqihi, dans la beauté physique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans sa patience et son endurance, fi sabrihi, le numéro 1 de l'humanité, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dans son honnêteté, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dans son succès, dans tous les domaines, najah sallallahu alayhi wa sallam, fi jami'il majalat, le numéro 1, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a su réussir sa vie de famille, najaha fi hayatihi zawjiyya, en tant que mari, eh bien il est le numéro 1, en tant que père, le numéro 1, en tant que ami, compagnon, numéro 1, en tant que voisin, numéro 1, en tant que professeur, il est le numéro 1, en tant que réformateur, muslih, il est le numéro 1, en tant que endurant, sabir, il est le numéro 1, en tant que combattant, il est le numéro 1 sallallahu alayhi wa sallam. En tant que juge, il est numéro 1. En tant que chef d'état, il est numéro 1. En tant que sage, il est numéro 1. Il est sayyid dans tous les domaines sallallahu alayhi wa sallam. Et quand il dit ne me comparez pas, ne faites pas de préférence entre moi et les autres prophètes, c'est par modestie sallallahu alayhi wa sallam, c'est par tawadu. Quand il dit ne faites pas de préférence entre moi et Younus ibn Matta, le prophète Younus, traduit par Jonas, Younus alayhi salam, eh bien c'est par modestie sallallahu alayhi wa sallam. Quand il dit ne faites pas
de préférence entre moi et Moussa, c'est par modestie. Sinon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est le meilleur et le maître des prophètes. Il est le maître des prophètes, car lors de l'Isra ou le Mi'raj, il est monté au-dessus de tous les prophètes sallallahu alayhi wa sallam. Et lors de l'Isra ou le Mi'raj, c'est lui qui a dirigé la prière comme imam, et derrière lui tous les prophètes depuis Adam jusqu'à Isa alayhi salam. Derrière lui, il est le maître des prophètes. Et la logique des choses dit, s'il est le maître des prophètes, c'est tout à fait normal de le déclarer maître de toute l'humanité, car les prophètes représentent l'élite de l'humanité. Ça, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je prends des exemples dans son caractère, son comportement. Eh bien, sahaba disent alayhim ridwanullahi ta'ala, comme dit Anas, les autres sahaba, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. أحسن الناس خلقا. Il est le meilleur des hommes au niveau comportement. Allah Azza wa Jal a choisi le prophète صلى الله عليه وسلم d'entre tous les prophètes. Et de son époque, il l'a choisi de tous les hommes, parmi tous les hommes. Allah Azza wa Jal a vu, comme il est rapporté dans le hadith sahih, que le cœur de Muhammad صلى الله عليه وسلم est le plus pur, le plus sincère, le plus fort de tous les hommes. Il l'a choisi pour le dernier des messages. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été choisi au niveau du lieu, du temps, de la famille, du caractère, de la science et autres. Il est envoyé parmi la famille la plus noble des Arabes. C'est la famille de qui? De Bani Hashim, comme il est dit dans Sahih Muslim. Un descendant du prophète Ibrahim et Ismaïl alayhi wa sallam. Donc ses ancêtres sont les meilleurs, Ibrahim et Ismaïl. Et que toute sa famille, son ascendance n'a jamais connu des mariages illicites, même avant l'islam. Tous les mariages conclus entre les grands-parents, les arrière-grands-parents, les ancêtres, prophète sallallahu alayhi wa sallam, hommes et femmes, c'était des mariages légaux, illicites. Même parmi les ancêtres du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui n'étaient pas musulmans, ceux qui étaient sur shirk. Tous les contrats de mariage étaient contractés légalement et d'une manière licite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien Allah ta'ala l'a choisi parmi les Arabes, parmi toute l'humanité, et dans le meilleur des lieux, la Mecque, la ville sainte, la meilleure terre, comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il l'a choisi dans la meilleure génération, c'est celle de Sahaba radiyallahu anhum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah ta'ala lui fait le témoignage en lui disant wa innaka la'ala khuluqin azim. Il dit sallallahu alayhi wa sallam innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq. L'autre version sahiha aussi, salih al-akhlaq. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est venu envoyé pour parachever les bonnes manières que les autres prophètes ont laissées. Ils ont transmis un certain nombre de manières, de bonnes manières, tous les prophètes. Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu pour parachever le reste et pour réformer celles qui sont oubliées. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, il est choisi dans le temps, dans le lieu, dans sa pureté de ses ascendants. Et il est choisi aussi pour son caractère sallallahu alayhi wa sallam, car un homme de la taille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je parle de la taille, dans sa place aux yeux de l'humanité, ne peut qu'avoir des qualités qui sont les meilleures. On ne peut pas faire le rôle qu'a joué le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans avoir les qualités qu'il avait sallallahu alayhi wa sallam. Un homme qui doit sortir, et suivez-moi, même si c'est un peu lourd pour certains, mais c'est essentiel pour comprendre pourquoi le prophète est le maître des hommes. À partir d'un lieu dans le désert, de l'Arabie à la Mecque, où il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'université, il n'y a pas d'institut, il n'y a pas de professeur, des Arabes qui adorent des idoles, des Arabes qui ne participaient pas à l'époque, je parle à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et avant son avènement, qui ne contribuaient pas dans les civilisations du monde à l'époque, des Arabes qui sont oubliés et qui ne faisaient que suivre les deux grands empires de l'époque, soit les Perses, soit les Byzantins. Même les alliances se faisaient sur cette base. Certaines tribus arabes étaient pour les Byzantins, d'autres tribus étaient pour les Perses. Et quand il y a la guerre entre les deux empires, les tribus arabes devaient, elles aussi, faire la guerre. Ou là, à la Mecque, où la plupart des gens ne savaient ni écrire, ni lire. Et que les gens croyaient au djinn, que c'est le djinn qui décide de leur sort. Et même quand ils descendaient dans des vallées la nuit lors des voyages, comme il est dit dans les hadiths authentiques, Eh bien, les Arabes, dans leur voyage, devaient chercher refuge, non pas auprès d'Allah, mais auprès du maître de la vallée, c'est-à-dire le chef de djinn, le roi des djinns. Ils demandaient protection. Ils avaient peur. Et le djinn ne faisait que se moquer d'eux et leur faisait encore plus peur la nuit. Un homme envoyé dans ce contexte de l'jahiliya, des guerres, l'ignorance, le pillage, as-sihr, la magie, l'adoration des étoiles, ou bien de l'djinn, ou bien des pierres, ou bien des arbres, ou bien des anges. Les guerres entre toutes les tribus. Entre toutes les tribus. C'était la guerre qui durait des années et des années. Autour de ces tribus arabes, il y a des empires perdus, des empires en guerre, des polémiques philosophiques qui n'ont pas de fin. Un homme, subhanallah, orphelin, alayhi salatu wassalam, pauvre, il n'a pas d'argent, il n'a pas une grande famille riche, son père est décédé, sa mère est décédée, son grand-père est décédé, il n'a pas de frère, il n'a pas de sœur, sallallahu alayhi wasallam. Un prophète, un jeune, né à la Mecque, dans un contexte que vous voyez, c'était le jahiliya total. Je dis bien, il y avait des qualités chez les Arabes, mais ce n'est pas le sujet. Je parle de l'autre côté. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle Allah Azza wa Jalla a envoyé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais un enfant, subhanallah, il n'a pas derrière lui des frères, un père pour le soutenir. Son père, il ne l'a même pas vu. Il ne l'a même pas connu, sallallahu alayhi wa sallam. Sa mère est décédée à l'âge de 6 ans, il a fait sallallahu alayhi wa sallam. Un homme, un jeune, un enfant qui va perdre l'affection de la mère, cette pitié de la mère et du père, cet amour, cette mahabba, qui va prendre soin de lui dans un désert, dans une société où les faibles n'avaient pas de place. Je le souligne et retenez-le. Les faibles dans la société arabe n'avaient pas de place en général, que à des occasions comme dans Hilf al-Fudul, quand les chefs de la tribu de Quraysh ont décidé de porter secours aux faibles, aux nécessiteux, et ça c'était des exceptions. Le faible n'avait pas de place dans la société arabe. Comme la femme, je dis bien, en général, elle n'avait pas de place, mais dans les familles nobles, la femme avait une grande place dans les sociétés arabes. Mais en général, la famille ou la femme n'avait pas une grande place dans les sociétés arabes. Ça veut dire quoi? Seul le combattant qui sait défendre la tribu, qui sait faire la guerre et apporter le butin, c'est lui qui était respecté. Alors, un enfant orphelin, pas une grande famille, je parle du niveau matériel, argent, le père est mort, la mère est décédée, le grand-père, chef de Quraysh, est décédé, il n'a pas de frère, pas de sœur, la seule personne qui lui restait, c'était qui? Son oncle, Abu Talib. Qu'est-ce que ça va faire à vous, Abu Talib, face à toute cette humanité perdue? Alors, on ne fait pas attention à cet enfant, à ce jeune qui grandit à la Mecque, qui s'appelle Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Certes, il a attiré l'attention des gens par son intelligence, par sa sincérité, par sa confiance, par son honnêteté, par etc. ses qualités. Mais personne n'attend que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam devienne le dernier des messagers, excepté ceux qui avaient de l'information rapportée dans les anciens livres tels que la Torah et les évangiles. Eh bien, cet enfant, subhanallah, il va grandir, devenir un jeune, épouser Khadija. Ensuite, à l'âge de 40 ans, il devient prophète. Imaginez, il vient annoncer, même lui, il ne savait pas, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il est venu effrayé à Khadija. Il a eu peur, alayhi salatu wassalam. Il passe de toutes ces années où il était un homme parmi les gens de Quraysh, un jeune parmi les jeunes de Quraysh, mais pas plus. Subhanallah, maintenant, on lui annonce que tu es le dernier des prophètes, le meilleur des prophètes. Il vient, il annonce à Quraysh. Il dit à Quraysh, dites la ilaha illallah, tuflihu. Vous allez réussir, vous allez gagner. Qulu la ilaha illallah, tuflihu. Quelle personnalité doit avoir cet homme? Subhanallah. Je veux maintenant faire une étude de la personnalité du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Car cette personnalité qu'il aura, les qualités qu'il aura, et aussi ce qu'il va sacrifier pour devenir le prophète par excellence, alayhi salatu wa sallam. Le maître des prophètes, eh bien, ce qu'il va faire, il va faire un grand sacrifice, et même des grands sacrifices. Il ne va pas dormir comme tout le monde. Il ne va pas manger comme tout le monde. Il ne peut pas se reposer comme tout le monde. Il ne peut pas gérer sa vie comme tout le monde. Il ne peut pas penser comme tout le monde. Il ne peut pas profiter de ses moments d'amusement et de repos comme tout le monde. Maintenant, il doit être quelqu'un de distingué dans tout, avec un grand T majuscule, sallallahu alayhi wa sallam. Ce qu'il attend, c'est une grande tâche, une grande responsabilité, très lourde, comme le dit Allah Azza wa Jal. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Nous allons faire descendre sur toi une parole qui pèse lourd. C'est le Coran Karim, la responsabilité du Coran Karim. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam maintenant doit se préparer pour cela. Comme vous avez entendu lors de la conférence de Cheikh Al-Kharraz, hafidhahullah, que la prophétie ne s'acquiert pas. On ne peut pas acquérir la prophétie en faisant des efforts. La prophétie, elle est donnée, c'est un don d'Allah Azza wa Jal. Comme j'ai dit, c'est Allah qui choisit. Allahu yastafi min al-mala'ikati rusulan wa min al-nas. Inna Allah astafa Adam wa Nuh wa ala Ibrahim wa ala Imran ala al-alami. Allah il l'a choisi. Le prophète doit se préparer maintenant pour cette grande tâche de changer le cours de l'humanité. L'humanité entière, elle est dans dholomat, dans les ténèbres. Exception faite des individus, comme dit le prophète, illa rubbar min ahli al-kitab. Qu'est-ce qu'il doit avoir cet homme qui n'a pas d'argent, qui n'a pas une grande famille, qui n'a pas une grande place dans le Quraysh au niveau matériel, et au niveau qualité, il est numéro un. Alors, qu'est-ce qu'il va faire ? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il doit maintenant, comme j'ai dit, être distingué dans tous les domaines. Et c'est ce qu'il va faire. Comment peut-il gagner les cœurs des gens ? Ta'lif qulub an-nas. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, alif an-nas. Les Arabes qui lui ont annoncé, déclaré la guerre. Quraysh, à la 8e année de l'Hijra, qu'est-ce qu'il est devenu Quraysh ? Ils se sont convertis à l'islam. Idha ja'a nasrullahi wal fath wa ra'ayta an-nasa yadkhuluna fi dinillahi. Ils sont devenus musulmans. Les tribus arabes qui se sont alliées contre le prophète, elles sont devenues musulmanes. La péninsule arabique, elle est devenue musulmane dans sa grande majorité. L'islam va gagner par après l'Irak, l'Iran, l'Égypte, la Palestine, la Jordanie, le Liban, la Syrie, ensuite à l'est de l'Asie, et ça va avancer dans le Nord-Afrique. Avant la fin du premier siècle, l'islam était déjà en Andalousie. Et il était en Chine. Alors faites une comparaison, c'est pour vous montrer la place et la personnalité et la force de cet homme qui s'appelle Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comment, il y a quelques années, subhanallah, il était un orphelin. Alam yajid ka yatiman fa'awa wa wajadaka dallan fa'hada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Pas d'argent, pas de famille, orphelin, subhanallah. Et maintenant, grâce à lui, par la grâce d'Allah, on voit que la moitié de la planète est musulmane. Aujourd'hui, un quart de la planète, si ce n'est pas plus, sont des musulmans. C'est grâce à qui ? Le début, si on suit, en faisant, bien sûr, un retour en arrière, on va arriver jusqu'à quand ? Et jusqu'à qui ? Jusqu'à Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a su gagner, et ça, comme j'ai dit, il a réussi à gagner les cœurs des gens, sallallahu alayhi wa sallam. Comment ? C'est pas par ni par les insultes, ni par la contrainte, mais par ce qu'il avait comme qualité, sallallahu alayhi wa sallam. La force de personnalité, d'avoir sabr, d'avoir hikmah, de convaincre les gens, et de répondre au mal par le bien, sallallahu alayhi wa sallam. Et quand je passe sur des cas rapportés dans Sira, et des cas de gens qui ont aimé le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, subhanallah, quand j'arrive à cette histoire que j'ai répétée plusieurs fois, c'est l'histoire de l'imam Ahmed. Je m'arrête chaque fois et des fois je n'arrive pas à continuer. L'histoire de l'imam Ahmed, comme rapporte l'Hafiz al-Dhahabi dans Sir A'lam al-Nubala, est la suivante. L'imam Ahmed a une qissa qui a une alaqa avec l'amour du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Comment le prophète a su gagner l'amour, non pas de sahaba seulement, de sahaba et même de ceux qui n'étaient pas musulmans, il le respectait. Et il a gagné les cœurs de tous les musulmans après Sahaba jusqu'à la fin du monde. L'imam Ahmed, quand il fut enchaîné, attaché, les mains menottées devant le calife Al-Wafiq. Daw, imam Ahmed, imam Ahl-Sunnah, waqf qaddam al-Khalifa, dans une fitna connue dans l'histoire de l'islam. Et devant lui, son adversaire, amamahu khasmo, yujadilu, yunaqishu. L'imam Ahmed, il a gagné le débat. Il a gagné le débat. Et à la fin, quand il a gagné le débat, le calife dit au gardien, il lui dit, ouvre les menottes de l'imam Ahmed.
Al-Haris. Le gardien a ouvert les menottes qui sont tombées par terre. L'imam Ahmed, âgé, une barbe blanche, rahimahullah, il essaye, fatigué. Ils l'ont torturé. Ils voulaient même le tuer. Il a passé des mois en prison. Fouetté, des coups de fouet. Ils l'ont insulté, ils l'ont frappé. Et maintenant, cet homme très âgé, avec une barbe blanche, celui qui a mémorisé parmi les hadiths du prophète, 1 million de hadiths par cœur. Et maintenant, il est dans cette situation, à cause d'une injustice commise contre lui. Et il s'est abaissé pour saisir ses menottes. Le gardien lui dit, il tire les menottes, le gardien, avec force. Alors le calife lui dit, pourquoi tu veux garder ces menottes avec toi ? Imam Ahmed lui dit, avec un ton de quelqu'un qui est dans un état, il sent cette injustice contre lui. Il dit, je veux garder ces menottes et faire un testament au moment de ma mort, dire à ma famille de les mettre avec mon linceul et je les prendrai avec moi devant Allah yawm al-qiyamah pour dire à Allah à cause de quoi cet homme il a commis cette injustice contre moi. Alors le calife, quand il a entendu cette parole, il a pleuré, le calife, tout le monde a pleuré dans la salle du palais du calife. Et à la fin, le calife, il dit à l'imam Ahmed, je te supplie, pardonne-moi. L'imam Ahmed lui dit, je t'ai déjà pardonné depuis le premier jour qu'on s'est rencontrés. Pourquoi? Il dit, parce que tu es un descendant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Regarde, subhanallah, dans quel moment, qu'est-ce que ça représente le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour les gens, pour les musulmans. L'imam Ahmed est décédé 241 de l'Hijr, c'est-à-dire 230 ans après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais le prophète était toujours là, au sommet de toute cette humanité, le maître des hommes, sallallahu alayhi wa sallam. Al-Nabi alayhi salatu wa sallam, dans son endurance, sabr, est-ce qu'il est le premier? Naam, il est le premier. Même des fois, il disait, sallallahu alayhi wa sallam, quand il a vu ce que Quraysh ont fait contre lui, comme insulte, ils l'ont chassé de la Mecque, ils l'ont frappé, ils ont voulu le tuer. Eh bien, des fois, malgré cela, il dit, rahimallahu akhi Musa, udhiya fa sabar. Comme s'il veut dire, subhanallah, il dit qu'Allah Azza wa Jal accorde sa miséricorde à mon frère Moussa. Combien Benou Israël n'ont-ils pas fait du tort et du mal à Moussa, mais s'est montré endurant. Comme s'il veut nous dire que Moussa, il est plus endurant que moi. Mais en vérité, ce qu'il a dû souffrir, le prophète Mohammed, personne parmi les prophètes ne l'a subi. Personne parmi les prophètes. Car si vous suivez le cours des prophètes, de tous les prophètes, vous allez voir que certains prophètes ont été éprouvés dans l'argent. Ils n'avaient pas beaucoup d'argent. D'autres, dans leur famille. Vous avez soit le fils qui n'est pas musulman, bien le père qui n'est pas musulman, bien la femme qui n'est pas musulmane, etc. Certains ont été tués, d'autres frappés, chassés de leur pays. Mais le prophète, toutes les épreuves qu'ont subies les prophètes, lui seul, il les a subies toutes. Toutes ces épreuves. Ils l'ont frappé, insulté, chassé, tentative d'assassinat contre lui, sallallahu alayhi wa sallam. Ils l'ont touché même dans la chose la plus chère chez l'homme, après l'iman billah azza wa jal, la dignité, l'honneur de ton épouse. L'ird. Vous savez qu'est-ce que ça fait que quelqu'un, on traite son épouse d'avoir commis l'adultère? Qu'est-ce que ça fait pour un homme? Eh bien, le prophète sallam, il y a des hypocrites qui ont accusé Aïcha radiallahu anha d'avoir commis l'adultère. Et le prophète sallam, un mois, shahr, il attend la révélation. La révélation pendant un mois, c'est-à-dire c'était une période de souffrance et d'épreuve. Les hypocrites de Médine propagent et diffusent la rumeur. Aïcha a commis l'adultère avec sa femme al-Mu'attil quand ils étaient en voyage, c'est quoi ça, alors qu'il dit qu'il est prophète, etc. Et la rumeur arrive à l'oreille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est au courant de ce qui se passe, Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il attend la révélation un mois. Il n'y a pas de révélation, sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce que ça fait pour un homme? Qu'est-ce que ça fait pour un croyant? Qu'est-ce que ça peut faire pour un prophète? Qu'est-ce que ça peut faire pour le maître des prophètes, sallallahu alayhi wa sallam, qui est un modèle et un exemple? Mais il s'est montré endurant, sallallahu alayhi wa sallam. Al-Nabi alayhi sallallahu alayhi wa sallam, face à des situations, il n'avait même pas de quoi manger. Il sort de chez lui la nuit, sallallahu alayhi wa sallam, alors que nous avons beaucoup de choses à manger, à boire, nous avons tous les moyens de confort chez nous. Beaucoup de musulmans, 2-3 TV à la maison, 2-3 paraboles à la maison, 2-3 ordinateurs à la maison, 2-3 voitures, 5-6 GSM, les derniers modèles, des vêtements qu'on ne peut pas dénombrer, toutes sortes de fruits, toutes sortes de viandes. Et même des fois, on en a marre de manger toujours la même chose parce qu'on mange trop de viande. Même lors de l'Eid, certains musulmans ils disent, moi je mange toujours la viande, je n'ai pas besoin de faire le sacrifice. Subhanallah. Comparer, nous les musulmans, comment on vit, et on ne veut pas dire Alhamdulillah. Alhamdulillah. Et que le prophète Mohammed, le maître des hommes, il sort la nuit. Il rencontre Abu Bakr et Omar. Et il trouve devant lui, Abu Bakr et Omar, dans la rue de Médine. Et il leur dit, qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce qui vous a fait sortir? Ma akhrajakoum. Ils disent, Ya Rasulallah, nous étions chez nous à la maison, la nuit, à Médine. Mais nous n'avons rien à manger. Ma annamen aklou. Khrajna, nous sommes sortis avec des pierres sur le ventre. Abu Bakr et Omar. Ils n'ont rien à manger. Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit, je vais vous dire la vérité, moi aussi, ce qui m'a fait sortir à cette heure-ci de ma maison et de chez moi, c'est parce que je n'ai rien à manger et moi aussi, j'ai des pierres sur mon ventre, sallallahu alayhi wa sallam. Et des fois, sahaba, ils avaient chacun une pierre sur le ventre et le prophète en avait deux, tellement il avait plus faim que les sahaba, radiallahu anhu. Mais, quand il a quelque chose, le nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui avait faim, et qui avait soif et qui était pauvre sallallahu alayhi wa sallam, quand il a l'occasion d'avoir quelque chose entre ses mains, c'était pas pour lui, c'était pour les gens, pour tout le monde, pour les autres sallallahu alayhi wa sallam. Le jour, comme il est rapporté dans Sahih al-Bukhari, où un homme vient chez lui sallallahu alayhi wa sallam, il lui offre, c'est une femme qui lui a offert un vêtement, une femme, elle lui offre un vêtement et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis sur lui. Il est rentré à la maison tout content, sallallahu alayhi wa sallam. C'était une des rares fois où il a eu un vêtement neuf. Parce qu'il n'avait pas de quoi acheter. Il donnait tout ce qu'il avait. Comme dit Ibn Abbas dans Sahih al-Bukhari, Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ajwad al-nas wa kana ajwad ma yakunu fi Ramadan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le plus généreux des hommes. Il est encore plus généreux durant Ramadan. Comme dit un sahabi dans le hadith Sahih, le prophète n'a jamais dit non à quelqu'un qui lui demanda quelque chose. Sauf quand il n'a rien, alors là, il garde le silence. Il ne dit pas là. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ma kesh yqoul illah. Ayy wahdi jit lablu shi haja, li ma kaykunch andu, ma yqoulch illah. Qu'est-ce que sallallahu alayhi wa sallam? Il a un vêtement neuf dont il est content. Il le porte, il sort devant sahaba, content sallallahu alayhi wa sallam. Lui qui pouvait avoir les montagnes de Mecca transformées en or, la montagne de Uhud transformée en or. Il a ce vêtement, il sort devant Sahaba et tout d'un coup, un Sahabi lui dit, Ya Rasulallah, donne-moi ce vêtement. Subhanallah. Imaginez si quelqu'un parmi nous était à la place. Nous, la première réponse qu'on donne, on dit, le cadeau ne s'offre pas deux fois. Eh bien, Nabi sallallahu alayhi wa qu'est-ce qu'il fait? On lui demande un vêtement qu'il vient de porter et lui, il en avait besoin. Pourquoi? Parce qu'il recevait en tant que prophète et chef d'État, il recevait les délégations qui venaient, des gens non musulmans qui venaient. Il devait donc être avec un vêtement convenable. Sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se tait, il rentre chez lui, il change de vêtement, il porte les anciens vêtements qu'il avait. Sallallahu alayhi wa sallam. Il plie le vêtement. Il vient et lui donne à Sahabi. Il le donne. Regardez. Prends. Sahaba, face à cette situation, certains, ils étaient en colère. Ils sont venus dire à ce compagnon et de lui faire des reproches pour la demande qu'il a faite auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais un Sahabi qui sait, il voit que devant lui, il y a vraiment le maître des hommes. Il y a Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas n'importe qui. Il sait à qui il demande. Un Sahabi dit à Sahaba, aux autres Sahaba, écoutez, je vais vous dire mon secret. Je n'ai pas demandé ce vêtement pour le mettre, pour le porter. Je ne veux pas faire comme ça. Je ne veux pas prendre un vêtement que le prophète m'a mis pour que moi, je le mets à sa place. Il dit, moi, je l'ai pris pour le garder, le plier, le garder chez moi, à la maison, jusqu'au jour de ma mort, je l'utiliserai comme mon linceul et rencontrer avec Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyamah. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il avait de l'argent, il l'a donné. Au point où des fois il dormait sur un lit. Un lit, quand on dit un lit du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était pas un matelas 15 ou 20 cm, c'était des fois un tapis fait avec de la paille, hasir. Des fois c'était sa cape, sallallahu alayhi wa sallam. Il l'a mis par terre et il dort dessus, sallallahu alayhi wa sallam. Des fois il ne trouve même pas ni sa cape, ni de tapis, ni de lit. Il dort par terre, sallallahu alayhi wa sallam, sur le sable. Omar rentre chez lui un jour, comme il est dans le hadith sahih, il est rapporté dans le hadith sahih. Il rentre, il voit le prophète sallallahu alayhi wa sallam allongé chez lui. Subhanallah. Le maître des hommes, Omar, regardez quel. Je suis en train de vous décrire juste un côté de la personnalité de ce grand homme qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le maître des hommes. Omar rentre, rentre pour discuter d'un sujet familial avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il a été frappé par cette scène. Il rentre, il voit le prophète sallallahu alayhi wa sallam allongé sur un tapis, et le prophète, quand il voit Omar, il se lève pour s'asseoir, et Omar remarque qu'il y a des traces de paille sur le corps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Omar, il voit ça, qu'est-ce qu'il fait? Il pleure, il dit: Ya Rasulallah, Kisra et Qaysar, Korwes, le roi des Perses, Qaysar, le roi des Byzantins, vivent dans les palais et dans le luxe. Et toi, tu es le messager d'Allah. Tu vis dans cette situation. Et le prophète, regardez la personnalité du maître des hommes. Qu'est-ce qu'il dit? Il lui dit pas: Non, ya Omar, tu as raison. Je dois changer de meuble. Je dois changer de modèle. Nous sommes 2006, 2007, etc. Il dit: Ya Omar, oulaïka al-qawm, ujjilat lahum tayyibatuhum fil hayati dunya. Cela, leur bien matériel, eh bien, ils vont en profiter dans ce bas monde, mais le jour de la résurrection, ils n'auront pas une hasana yawm al-qiyamah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle de l'au-delà et cherche l'au-delà. Il cherche la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu prends dans Az-Zuhd, al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme dit Aïcha, Urwa, c'est le neveu de Aïcha. Wild khthad Aïcha, Urwa. Il dit: Ya khala, akhalti, ya khala, oh ma tante, dis-moi, quels étaient les plats que mangeait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Pourquoi? Parce que Urwa, qui n'est pas un sahabi, il entend parler de sa tante Aïcha, il entend parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète, et sahaba parle du prophète, at-tabi'un parle du prophète, donc il sait qu'il est, qu'on parle d'un homme qui est le maître des hommes, alors il veut connaître même les détails de sa vie. Bref, il veut connaître les détails de sa vie. هذا الرسول الكريم كيف كان كياكل واش بحال بحال الناس est-ce qu'il mangeait comme tout le monde 3-4 plats et après on n'est pas content. La mère qui passe des heures à la cuisine pour préparer, le père qui passe des heures à aller faire des courses, il vient à la maison, il achète, il travaille, et la mère qui travaille toute la journée, toute la matinée à préparer pour sa fille, pour son fils, et à la fin le jeune qui rentre à la maison, il dit: c'est quoi ça? Et il dit: j'en ai marre de manger tout le temps la même chose. Il critique sa mère. Il dit: qu'est-ce que tu es fait à la maison? Il dit à son père: pourquoi tu m'as mis au monde si tu ne dois pas me donner de l'argent, si tu ne m'achètes pas des vêtements, etc. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il demande, parce qu'il veut connaître, est-ce que le prophète était comme tout le monde? Est-ce qu'il mangeait comme tout le monde? C'est-à-dire, quand je dis tout le monde, c'est-à-dire le luxe, puisque c'est un grand homme, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Aïcha lui dit: Ya ibn Ukhti, écoute-moi mon neveu. Kana wallahi, kana yamurru alayna. الهلال والهلال والهلال ثلاثة أهلة في شهرين. Elle dit: Aïcha, ma vie avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je vais te dire qu'est-ce qu'on mangeait à la maison. Des fois, ça arrivait des fois, la première lune, le croissant lunaire, le deuxième, le troisième, c'est-à-dire deux mois de suite, il n'y a pas de feu à la maison. On ne cuit rien, on n'a rien à cuire à la maison. Deux mois, il n'y a rien à cuire, il n'y a rien, il n'y a pas de viande, il n'y a rien à cuire. Tous les aliments qui doivent être cuits, il n'y a pas un gramme à la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors Urwa, il est étonné, il dit: qu'est-ce que vous mangez? Aïcha lui dit: innama huma al-aswadan, at-tamr wal-ma, les dattes et l'eau. Les dattes et l'eau, qui mange les dattes et de l'eau? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam mange des dattes et boit de l'eau pendant deux mois de suite successifs, sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a jamais mangé jusqu'à se rassasier, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit: comment je peux être tranquille si les pauvres musulmans n'ont pas mangé jusqu'à se rassasier, sallallahu alayhi wa sallam. Il pense aux autres. Quand il a quelque chose, il dit: donnez à telle personne, donner à telle personne. Quand il immole une bête, un mouton, une brebis ou autre chose à la maison, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, une partie pour les pauvres, une partie pour sa famille, une partie pour les amis de Khadija radiyallahu anha qui étaient décédés depuis longtemps, sallallahu alayhi wa sallam. Et An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans sa sincérité et dans sa fidélité, tenir ses engagements alayhi sallallahu alayhi wa sallam envers les gens, envers même Quraysh. Quraysh. Et là vous avez aussi une image de ce grand homme qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quraysh, subhanallah, elle a pris l'argent de Sahaba, l'argent du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la terre du prophète et de Sahaba, tout ce que les Sahaba ils avaient à Mecca. Quraysh, c'est elle qui s'est accaparée de tous les biens des musulmans, Muhajirin. Elle a insulté le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Elle l'a traité de menteur, de magicien, de poète, etc., de fou. Quraysh a frappé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils lui ont cassé les dents, Raba'iyya. Ils l'ont blessé sur sa tête lors de la bataille de Uhud. Ils l'ont blessé sur ses genoux, alayhi sallatu wa sallam. Ils l'ont blessé sur ses épaules, sur ses joues. Tout cela dans la guerre. Dans la guerre, les sahab ils ont dit, c'est l'occasion de te venger, ya Rasulallah. Lève tes mains, fais du'a contre Quraysh. Cette Quraysh qui est dans la guerre, ils sont sur le champ de bataille. Imaginez tout homme, avec toutes les qualités que vous pouvez vous imaginer, excepté un seul, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il lève ses mains dans cette bataille et qui est face à lui, Quraysh. Quraysh, qui a massacré des musulmans, qui ont chassé des musulmans, il lève les mains et dit, Allahumma hdi qawmi fa innahum la ya'lamun. Oh Seigneur, guide mon peuple car ce sont des ignorants. Sallallahu alayhi wa sallam. Quel homme, quelle personnalité, quelle qualité, c'est le maître des hommes. Et on me dit que je dois arrêter, c'est l'heure de la prière, alors qu'il me reste au moins 70% de ma conférence. Inch'Allah, nous aurons l'occasion de continuer une autre fois. Wa sallallahu sallam ala muhammadin wa alihi wa sahbihi. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant. أستغفرك وأتوب إليك وأسأل الله تعالى أن يحشرنا في زمرة المصطفى الحبيب صلى الله عليه وسلم وأن يجعلنا تحت لوائه يوم القيامة وأن يجمعنا به في الجنة وأن يجعلنا من الذين يحبونه حقا وصدقا. فأرجو من الإخوة الاعتذار أو قبول العذر على التأخر وجزاكم الله خيرا على صبركم وأسأل الله تعالى أن يحشر هذا المجلس كما هو وكل الحاضرين معنا من الرجال والنساء والأطفال وكل من تحبونه من المؤمنين والمؤمنات. أسأل الله تعالى أن يحشرنا يوم القيامة مع نبينا صلى الله عليه وسلم. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله.